Bonjour, bonjour, avant-dernier cantara de la saison. Déjà, bienvenue à vous tous qui êtes à l'écoute. Un programme pour dire la Méditerranée, pour dire l'actualité à travers la revue de presse de Pierre-Louis Alessandri, à travers le coup d'œil sur la Cannes 19 que nous propose Dinar Abdelmagid, sur la coopération franco-marocaine que nous expose Nadira Belkhoutout, les nouveautés dans le traitement des déficiences visuelles, un sujet de la radio libanaise signé Nanette Ziadeh, une rencontre avec une critique de cinéma roumaine qui porte un regard fort intéressant sur la révolution tunisienne et à laquelle nous invite Maïa Dassili. Les déboires d'une association culturelle sur laquelle attire notre attention Pierre-Louis et le drame de la violence faite aux femmes en Espagne.
Cantara est le fruit d'une coopération interméditerranéenne qui englobe Radio Bleu RCFM, Radio Le Caire, SNRT Radio Rabat, Radio Liban, RTCI Tunis et Radio Extérieur d'Espagne.
Et tout de suite, pour commencer, le regard de Pierre-Louis Alessandri sur l'actualité à travers la presse méditerranéenne.
Regard sur la presse méditerranéenne. La revue de presse.
Les Mauritaniens voteront le 22 juin prochain pour élire leur président de la République. Un sondage publié par le site Cridem et effectué par le site arabophone Al-Akhbar indique que le candidat soutenu par le régime serait battu et ne recueillerait que 35% des voix. La Mauritanie est un pays qui connaît de graves difficultés économiques. Son taux de chômage dépasse les 12%. Le président sortant a décidé de ne pas briguer un nouveau mandat. Le maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin, ne briguera pas lui non plus un nouveau mandat pour les élections municipales de 2020. Il préside aux destinées de la cité phocéenne depuis 24 ans. Jean-Claude Gaudin, marseillais bontain et jovial, refuse cependant de désigner un successeur, mais il lance une mise en garde contre la guerre des égaux. On s'agite beaucoup dans les rangs de la droite marseillaise. Le sénateur Bruno Gilles, maire d'arrondissement, s'est déjà lancé dans la bataille. D'autres noms sont évoqués, comme celui de la présidente de la métropole ex-Marseille et présidente du département des Bouches-du-Rhône, Martine Vassal, ou celui de Renaud Muselier, le président de la région PACA. La presse provençale se fait régulièrement l'écho de l'agitation des milieux politiques marseillais à l'approche de l'échéance municipale. En Algérie, après l'annulation par le Conseil constitutionnel de la date du 4 juillet pour élire le président de la République, le chef de l'État par intérim a annoncé qu'il n'avait pas l'intention de démissionner, mais, souligne le journal El Waltan, il n'a pas pris le risque de définir une nouvelle date pour la tenue des élections. Il propose un dialogue inclusif en vue de définir de manière consensuelle le scrutin. Il s'agit de la nouvelle feuille de route du pouvoir qui a reçu, écrit El Waltan, une réponse cinglante de la rue. En effet, la mobilisation en Algérie ne faiblit pas. Le fait que le chef de l'État veuille rester au-delà de la date limite légale de 90 jours, soit le 9 juillet, est une autre violation de la Constitution, écrit le journal Liberté. L'équipe de football de Tunisie aura une nouvelle tenue pour disputer à partir du 21 juin la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. Le nouveau maillot a été présenté aux médias. La presse tunisie publie à la une la photo de cette nouvelle tenue. Le jaune est la couleur choisie pour les gardiens, tandis que les joueurs de champ porteront les traditionnelles couleurs blanc et rouge. La nouveauté, c'est l'ajout d'un troisième maillot de couleur noire. Les aigles de Carthage évolueront au sein du groupe E, aux côtés du Mali, de l'Angola et de la Mauritanie. Toujours dans le domaine du sport, le magazine américain Forbes a choisi de mettre en exergue trois champions sportifs égyptiens qui ont réalisé des exploits chacun dans sa discipline et qui ont marqué l'histoire du sport. Il s'agit de Mohamed Salah, la star du club de foot britannique de Liverpool, de Nour El-Sherbini, la joueuse de squash classée numéro 2 mondiale et actuelle championne du monde, et enfin Mohamed El-Chorbaghi, champion de l'Open de squash britannique et numéro 2 mondial masculin. Le Progrès égyptien publie les photos de ces champions. Quant au magazine Forbes, il souligne que Mohamed Salah est un des meilleurs joueurs en Europe actuellement. Nour El-Sherbini est la plus jeune joueuse de squash qui remporte à 19 ans le titre mondial et que Mohamed El-Chorbaghi a réussi à conserver la tête du classement mondial de squash durant 40 mois successifs. Bravo donc pour ces stars qui font honneur à leur pays et au sport. Précisons aussi que c'est en Égypte que se déroulera la Coupe d'Afrique des Nations et le coup de sifflet inaugural sera donné donc le 21 juin prochain.
Des élections qui se succèdent et qui ne se ressemblent pas forcément. Jean-Claude Gaudin qui ne se présente pas à sa propre succession, ça c'est une nouvelle. Marseille est une de ces villes terriblement fidèles à leur premier magistrat. Souvenez-vous, Gaston Defer. Et en Algérie, faux calcul des décideurs. Ni le ramadan, ni la chaleur n'ont eu raison des contestataires, alors qu'une conférence nationale de la société civile se dessine après moult discussions. Mais parlons foot. Et lorsque l'on parle foot en Afrique, ce n'est pas une mince affaire. Comme l'on a pu le déduire à l'écoute de la revue de presse. Ce n'est tellement pas une mince affaire que notre premier sujet nous est proposé par Dina Abdelmagid et il traite de quoi, à votre avis ? De la CAN 19. Dire que cette Coupe d'Afrique a bien failli ne pas avoir lieu.
La Coupe d'Afrique des Nations 2019 débute ce vendredi 21 juin au Stade international du Caire. Le sort a placé quelques groupes dans le même groupe.
Il y aura des surprises, des petits qui bousculeront les grandes sélections.
L'Égypte détient le record de participation à la phase finale de la compétition. Les Égyptiens sont également ceux qui ont le plus de fois soulevé son trophée, 7 fois champion dans 3 d'affilée en 2006, 2008 et 2010. Instinctivement, le choc entre le Maroc et la Côte d'Ivoire programmé le 28 juin attire l'œil. D'autant plus que l'Afrique du Sud fait également partie du lot. Ça sera le lendemain d'un Sénégal-Algérie. On aura aussi envie de se passionner pour le très attendu Cameroun-Ghana, un vieux classique africain dont le dernier opus lors de la CAN 2017 au Gabon avait tourné à l'avantage des Lions indomptables en demi-finale. Ça sera le 29 juin et le match pourrait décider qui, du Cameroun ou du Ghana, s'installera aux commandes du groupe F. Mais les meilleurs spectacles peuvent aussi être assurés par les sélections de moindre envergure. Ce premier tour aura forcément le goût de la nouveauté. Certaines sélections se rencontreront pour la première fois, d'autres profiteront de prendre une revanche en souvenir d'une vieille défaite. Qui sont donc les favoris, les outsiders et les équipes à surveiller pour cette 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations? Revue de détails des forces en présence avec Mohamed El-Lissi, journaliste sportif.
Notre sélection au premier tour rencontrera le Zimbabwe, puis Ouganda. Rien à craindre de ces deux sélections. Elles ne sont pas comptées parmi les favoris en Afrique. Je crois qu'on peut les vaincre facilement. Et on peut aussi compter sur notre attaquant vedette, Mohamed Salah, meilleur buteur de Première Ligue, qui vient d'être auréolé d'une Ligue des champions avec Liverpool. Cet exploit lui donnera la force et l'ambition pour remporter cette Coupe d'Afrique.
C'est les plus grands joueurs du Sénégal et du Maghreb.
Les grands favoris,
le Sénégal, régulièrement cité par les parmi les favoris pour remporter le trophée.
Le Maroc possède actuellement l'une des plus belles équipes de son histoire, ce qui en fait un favori.
Il devra toutefois d'abord s'extriper d'un groupe de la mort composé de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique du Sud et de la Namibie avant de pouvoir éventuellement prétendre à la victoire finale. La Côte d'Ivoire, 4 ans après leur dernier succès, se présente.
L'Égypte, sans doute, peut compter sur Mohamed Salah, mais nous pouvons aussi compter sur le numéro 2, Abdallah Saïd, un excellent joueur, très talentueux. Aussi, on peut citer l'attaquant principal, Marwan Mohsen. On a aussi au centre pas mal de joueurs qui pourraient être forts en défense. Mais les trois les plus importants sont Mohamed Salah, Abdallah Saïd et Marwan Mohsen. Trois équipes disputeront la Coupe d'Afrique pour la première fois, le Burundi ainsi que Madagascar et la Mauritanie. Quant aux pays à surveiller, le Bénin fait son retour en phase finale, la Guinée pour sa part croise les doigts, les Léopards de la RD Congo, toujours dangereux en Coupe d'Afrique.
Mais les grands favoris restent l'Égypte, le Sénégal, le Maroc, le Cameroun et le Nigeria.
Sénégal, Maghreb, Cameroun, Nigeria.
Que le meilleur gagne. À présent, cap sur Rabat. Nadira Belkhoutout, avec, vous vous en doutez bien, un œil braqué sur la CAN 19 et les lions de l'Atlas, nous propose un sujet d'envergure, une réunion franco-marocaine pour faire le point sur le partenariat bilatéral et préparer la rencontre de haut niveau franco-marocaine de novembre prochain.
Le Maroc et la France font le point sur les différents volets de leur partenariat d'exception. C'était ce matin à Rabat lors des entretiens entre le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale et le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères. L'occasion pour Nasser Bourita et Jean-Yves Le Drian de constater la dynamique de ce partenariat et la nécessité de le renforcer dans la perspective de la tenue en France l'automne prochain des travaux de la rencontre de haut niveau franco-marocaine. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale Nasser Bourita.
Nous avons constaté que les différents instruments de ce partenariat fonctionnent de manière dense, de manière très positive, et que les éléments de ces différentes structures seront versés dans les travaux de la 14e RHN prévue au mois de novembre de cette année, qui elle-même sera un élément clé pour préparer la visite d'État du président français au Maroc. Nous nous sommes félicités que ces actions se focalisent sur une thématique importante qui a été déjà relevée lors des entretiens entre les deux chefs d'État et qui est celle de la jeunesse et de la formation, qui reste un élément clé, un axe structurant du partenariat maroco-français, que ce soit en termes d'emploi, en termes d'opportunités économiques, en termes de formation, en termes d'éducation, en termes de culture. La jeunesse est un élément clé.
Le chef de la diplomatie française a tenu à mettre en avant le succès du partenariat franco-marocain dans son versant économique. Jean-Yves Le Drian.
Nous avons une relation économique considérable. Plus de 900 entreprises françaises directement ou indirectement présentes sur le territoire marocain, de milliers d'emplois et une volonté de continuer ensemble dans un vrai partenariat qui a été singulièrement illustré lors de l'inauguration de la ligne à grande vitesse vers Kenitra, mais qui se renforce aussi par la décision de mettre en œuvre une centrale solaire Nour. Tout cela montre le succès d'une relation économique qui participe au développement d'un pays et de toute une région, et je pense qu'il faut que nous mettions encore davantage en avant nos partenariats industriels et que la rencontre que nous aurons bientôt, la réunion de haut niveau, la rencontre de haut niveau, doit nous permettre d'appuyer sur cette orientation majeure.
La question du traitement des visas délivrés aux Marocains par les consulats de France a également été évoquée par le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères. Jean-Yves Le Drian se dit satisfait.
Sur les visas, jamais dans l'histoire, la France n'a délivré autant de visas aux Marocains que l'année dernière. Plus de 400 000. On sera à plus de 400 000 cette année. C'est donc considérable. Et le Maroc est devenu le deuxième pays pour la délivrance de visas français, après la Chine. C'est très significatif. Et moi, je suis plutôt pour me réjouir de cette situation. Cet engouement est considérable. 10% de plus par an. Et ça s'appelle des échanges réguliers. Parce qu'il n'y a rien de plus régulier qu'un visa. Et donc, ça montre aussi l'attractivité de la relation entre le Maroc et la France. Mais il faut comprendre qu'il y a des délais d'instruction, puisqu'il y a un tel afflux de demandes qu'il faut les gérer, on les gère le mieux possible. Et j'entends dire ici ou là, je le dis à vous-même, puisque vous m'avez interrogé, que le coût du visa avait augmenté, pas du tout. Et si certains vous font croire ça, ils se trompent. Nous sommes d'ailleurs dans des réglementations européennes à ce sujet, mais il peut y avoir des manipulateurs.
L'international, un sujet incontournable dans les entretiens entre le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale et le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères. Nasser Bourita et Jean-Yves Le Drian ont souligné la convergence de vues des deux pays sur l'ensemble des questions, que ce soit la crise libyenne, la région subsaharienne ou encore le Proche-Orient. L'occasion également pour les deux ministres de rappeler cette convergence en ce qui concerne la tenue à Rabat de la conférence internationale sur le maintien de la paix dans les espaces francophones, conférence qui sera co-présidée par le Maroc et la France, et le sommet des deux rives de la Méditerranée prévu à la fin de ce mois à Marseille.
Paris, malgré de nombreux va-et-vient, n'est jamais très éloigné des dossiers africains, ceux de l'énergie ou de la mobilité bien sûr, mais également ceux de la formation et de la jeunesse.
Il voulait quitter la routine, celle de son père qui étiole les rêves au large des paupières, enfourcher son vélo, repartir à zéro, petit gaune de Lyon aux oripeaux d'évasion, partir, non pas pour voir de nouveaux lieux mais voyager, pour ouvrir de nouveaux yeux, orpailleur d'horizon, y'a que des hôtels mille étoiles, pour les clochards célestes qui ne s'embarrassent pas d'un toit, qui croient sans beurre, qui français qui flâne, lisez Kerouac qui chantait Bob Dylan. Il est parti vivre à la dure, découvrir l'humain, épouser la nature, et de pays en pays, il pédale, et de guerre en maladie, il pédale, s'est usé par la route d'un voyage de 5 ans qu'au bord de son doute, il rencontre un piment. Pili 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 pili, pili 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 pili, pili pili, sur un croissant au beurre. Pili 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 pili, pili 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 pili, pili pili. Elle était belle comme un piment, une robe du dimanche. Elle rêvait d'un charmant, d'un amour qui s'épanche. Elle vivait dans un quartier populaire. Elle avait fui son pays, les pogroms et la guerre. Et la terre des ancêtres était un vaste mouroir. Et ce pays d'accueil, un sombre miroir qui lui renvoyait cette image de paria, de réfugié HR qui glisse aux parois et qui veut s'envoler, partir loin d'ici, là où le ciel ne dit ni tout ni tout-ci. De sa chambre au vert papier peint, recouvert de posters de salut les copains, était son antre où elle rêvait d'être hippie, d'écouter du Jimmy et de vivre à Paris, en attendant le bus sous un arbre en fleurs. Son destin croise celui d'un croissant au beurre. Pili 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 pili, pili 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 pili, pili pili, sur un croissant au beurre. Pili 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 pili, pili 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 pili, pili pili, sur un croissant au beurre.
En Espagne, les tractations post-électorales, la fin du procès intenté aux dirigeants catalans indépendantistes, les questions économiques et presque même la venue de la saison estivale ont été un temps éclipsés par un chiffre. 1000. 1000 femmes assassinées par leurs compagnons, mari ou fiancé depuis 2003.
Las 7 y 14, 6 y 14 en Canarias. La muerte violenta de Beatriz, de 29 años, vecina de Alboraya, de Valencia, puede ser el último caso de la violencia machista en nuestro país. Su nombre elevaría a 1000 las asesinadas por esta lacra desde que en 2003 comenzaron los registros.
7h14, 6h14 aux Canaries, la Radio Nationale d'Espagne annonce une énième victime, un nouvel assassinat de femme aux mains de son mari. Mort à l'arme blanche, elle avait 27 ans. Lui se jette par le balcon. Nous sommes le lundi 10 juin. Adriana est la 25e victime de la violence de genre, appelée antérieurement violence domestique, depuis le début de l'année. La 25e depuis le début de l'année. C'est aussi la 4e dans la communauté valencienne. 1000 femmes mortes depuis 2003 aux mains de celui qui un jour avait été leur mari, leur compagnon, leur fiancé. 1000 femmes, effrayant féminicide, pourtant le compte n'y est pas. En effet, l'Espagne, signataire de la Convention d'Istanbul sur la violence faite aux femmes, n'inclut pas dans le décompte les assassinats de femmes commis par des hommes hors de leur cercle familial. C'est ainsi que les violents crimes de prédateurs sexuels et autres ne sont pas comptabilisés. Pourtant, des jeunes comme Diana Kerr ou l'institutrice Laura Luengo, il y a peu, sont bien des crimes commis contre des femmes pour le fait d'être des femmes et devraient de ce fait, et conformément aux dispositions de la Convention d'Istanbul, être considérées comme telles. Depuis les institutions de lutte contre cette violence, on insiste sur la nécessité d'étendre la qualification de victime de violence de genre telle que définie par cette convention. Mariana Rodriguez, coordinatrice du système de suivi de la violence de genre.
Cierto que el convenio de Estambul nos obliga a extender este concepto y no considerar solo violencia de género aquella que se lleva a cabo sobre la mujer por parte de pareja o expareja, sino cualquier tipo de violencia sobre la mujer.
Il est exact que la Convention d'Istanbul nous oblige à étendre ce concept et à ne pas considérer seulement la violence de genre exercée par le conjoint ou l'ex-conjoint, mais toute violence exercée contre la femme. Des associations féministes telles que Feminicidio.net élève le nombre de victimes de violences machistes à plus de 1010 pour les seules 10 dernières années. La communauté valencienne a décrété 3 minutes de silence. La mairie d'Alboraya aussi. Les minutes de silence se succèdent aux minutes de silence, longtemps dans l'ombre, mais désormais de plus en plus à visage découvert, les remises en question politiques de la protection et de la lutte anti-violence faite aux femmes s'affiche désormais. Ana Vega, députée Vox.
Vamos a exigir que se hagan minutos de silencio también cuando haya violencia sobre hombres, niños, ancianos, sobre cualquier persona, porque nosotros estamos en contra de cualquier violencia y, como bien sabéis, pretendemos la derogación de la ley de violencia de género para sustituirla por una ley de violencia en el ámbito intrafamiliar.
Nous allons exiger, dit Ana Vega, une minute de silence chaque fois également lorsqu'il y a violence contre des hommes, des enfants, des vieillards, sur toute personne, parce que nous, nous sommes contre toute violence et, comme vous le savez, nous envisageons l'abrogation de la loi sur la violence de genre pour la remplacer par une loi sur la violence dans le contexte intrafamilial. La formation d'extrême droite Vox réclame donc l'abrogation de la loi portant lutte contre la violence de genre et exige aussi, là où elle a commencé à être présente dans les institutions, en Andalousie par exemple, la liste et dossiers de tous les professionnels, psychologues, médecins, assistantes sociales, etc., travaillant dans les structures de soutien aux femmes en proie aux violences. Ces structures de soutien, ces professionnels se voient désormais fragilisés. Et peut-être n'allons-nous plus entendre ceci.
Recuerden que el 016 es el número de atención a las víctimas de la violencia machista. Es gratuito y no deja rastro en la factura.
Rappelez-vous que le 016 est le numéro d'attention aux victimes de violences machistes. Il est gratuit et ne laisse pas trace sur la facture. 1000, sans compter celles que ne recueille pas le décompte officiel. En plus de 30 ans de terrorisme terrible de l'ETA, le nombre de victimes aura été de 800.
اكتشاف موسيقي.
Hallazgo musical.
Hallazgo musical. Okay, a musical discovery.
Nadila Belkhotout nous propose de découvrir Loubna Noumen et à travers Loubna, elle nous propose en fait de découvrir ou redécouvrir des sons et un thème récurrent dans le patrimoine populaire marocain. Loubna Noumen, Betty Sahrana, tu n'as pas fermé l'œil de la nuit.
Cántara, nuestro programa intermediterráneo.
Nanette Ziadeh a délaissé ses sujets de prédilection pour une fois, l'art, la littérature, l'édition, le cinéma, et nous propose un sujet médico-social. Il traite des avancées dans le traitement des problèmes de rétine, des problèmes graves qui mènent très souvent à la cécité et qui nourrissent donc de facto un problème social important. Or, la médecine a avancé et les méthodes de correction visuelle non invasive aussi. Entre autres, grâce aux travaux du docteur Pierre Marcheteau, expert en récupération et rééducation visuelle des malvoyants.
Bonjour Claude Marcheteau.
Bonjour.
Vous êtes expert en rééducation visuelle pour malvoyants. Et en plus, vous avez développé un logiciel pour rééduquer justement les malvoyants. Alors, quand on est malvoyant, c'est peut-être une fatalité, mais qu'on peut contourner ou apprendre à apprivoiser, en tout cas. C'est ce que vous semblez dire.
Oui, certainement, il y a des cas où on peut très nettement améliorer des personnes qui ont des capacités visuelles très faibles. Et il faut faire une rééducation. Il faut d'abord leur expliquer les difficultés qu'ils peuvent avoir avec la maladie des yeux qu'ils ont. Essayer de se mettre un petit peu à leur place, leur faire comprendre que, et admettre que ces gens-là puissent faire des gestes difficiles, renverser des obstacles et ainsi de suite. Et rien que de ce fait-là, c'est déjà leur redonner un peu plus de confiance. Ils sont pas malades au niveau du cerveau, c'est qu'ils ont des yeux qui sont en mauvaise, avec de mauvaises réponses ou de mauvaise qualité et qui vont faire qu'ils vont pas être toujours très performants.
Alors, est-ce que vous êtes en train de me dire qu'en règle générale, quand on est malvoyant, il y a une certaine forme d'abnégation qu'on peut éradiquer, si j'ose dire ?
Oui, mais c'est comme toute personne âgée. Souvent, en prenant de l'âge, on fait des choses moins bien qu'avant et on tombe dans des cercles vicieux. C'est-à-dire que même, c'est valable évidemment pour les malvoyants encore plus, mais souvent, la malvoyance, c'est souvent sur les pêcheurs âgés. Donc, il y a déjà des problèmes. On va faire moins de choses parce qu'on les fait moins bien, on les fait de moins en moins, donc on les fait de plus en plus mal et on finit par ne plus faire. On tombe souvent dans ce qu'on appelle le cercle vicieux qui fait qu'on n'a plus confiance en soi et on ne va plus sortir dehors parce qu'on ne voit pas très bien les obstacles. On ne va plus lire parce qu'on lit comme un enfant débutant. Donc on va passer pour, entre guillemets, pour un idiot par rapport à d'autres personnes. Mmh.
Alors, est-ce que votre méthode, justement, s'applique à toutes les malvoyances, à savoir aux malvoyances congénitales également, ou seulement aux malvoyances qui se développent, par exemple, avec l'âge ?
On peut s'adapter à toutes sortes de malvoyances, puisque, en fait, les logiciels et la rééducation, elle peut commencer dès l'enfance avec des enfants handicapés. J'ai travaillé dans un centre pour enfants handicapés à Angers. Et puis après, on peut rééduquer des adultes, on peut rééduquer des personnes âgées, et donc toutes sortes de malvoyances. Mais on ne peut pas tout rééduquer, hein, je précise bien. Donc il va y avoir des cas faciles, et puis il y aura des cas plus difficiles.
Alors pour être plus précis, quels sont les cas faciles et quels sont les cas difficiles, justement ?
Alors ça dépend de la maladie, évidemment, puisqu'on va avoir toutes sortes de maladies, mais avec des atteintes qui vont être soit de la rétine centrale, donc la celle qui permet de voir les détails. Et puis il va y avoir d'autres maladies, comme les maladies qui touchent la rétine périphérique, où on va avoir du mal à localiser les obstacles, où on va faire des chutes. Par contre, on pourra, avec cette maladie, pouvoir continuer à lire encore un certain temps.
Ouais.
Alors la première maladie, avec la dégénérescence maculaire à l'âge, donc qui touche de plus en plus de personnes âgées.
Jeunes aussi.
Oui, même à partir de 50 ans. Donc là, c'est la perception des détails, puisque la zone centrale de la macula, ça va de la rétine, est malade, la macula. Et donc là, cette maladie va faire qu'on va être obligé d'utiliser une partie de la rétine périphérique. Et là, c'est plus compliqué parce que regarder avec sa macula, c'est un réflexe, c'est inné. On a toujours eu l'habitude de le faire. Là, il va falloir apprendre à déplacer son regard latéralement. Et donc, ça va être compliqué et dépendant de la zone qu'on va utiliser de la rétine périphérique.
Alors, en quoi cette méthode est-elle innovante, justement ?
Alors, elle n'est pas forcément innovante. On la connaît depuis quand même un certain temps, mais elle est plus développée ces dernières années, puisqu'on a aussi fait des logiciels et des exercices qui permettent de développer cette nouvelle capacité à voir et à pouvoir lire les détails.
Mais justement, quels sont les nouveaux éléments qui sont venus se juxtaposer depuis quelques années ?
Alors, il y a tout ce qui est quand même également matériel grossissant, ça il faut l'avoir à l'esprit aussi. Mmh. Donc, il y a des lunettes spéciales qui est de près, qui permettent d'améliorer la vision. Comme on le dit aussi, ce n'est pas forcément suffisant, il va falloir apprendre à les utiliser, donc on va faire des exercices, et l'informatique permet de proposer des exercices dans ce sens. Mais il faut aussi leur proposer des exercices auxquels ils puissent répondre. Et c'est ça aussi l'avantage de l'informatique, c'est qu'en un instant, on peut grossir l'image, diminuer l'image, changer la couleur, la changer de place et ainsi de suite. Donc on va pouvoir s'adapter très précisément à la capacité visuelle de la personne. Elle va réussir ses exercices, ça va la valoriser, elle va accepter de continuer et donc elle va s'accrocher et ça c'est très important.
Lorsque la médecine et l'informatique se donnent la main. Comment voit-on, comment vit-on de l'intérieur une révolution qui vous est étrangère ? Et comment la vit-on lorsque l'on a eu soi-même à vivre des changements radicaux, voire brutaux, chez soi ? Et puis, comment perçoit-on tout cela lorsque l'on appartient au monde du cinéma et de l'audiovisuel ? En marge du Festival du film européen qui se tient du 10 au 16 juin et qu'accueille la Cinémathèque tunisienne, Mayed Hassili fait une rencontre qui ne peut que fasciner la critique de cinéma roumaine Irina Margareta Nistor, qui est une des personnalités les plus actives de l'industrie cinématographique roumaine.
Vous êtes en Tunisie dans une période très importante, une période cruciale, où il y a beaucoup de parallèles avec la Roumanie des années 90, une période post-révolutionnaire. Mm-hmm. D'abord, ça vous fait quel effet d'être en ce moment en Tunisie?
Ça m'intéresse beaucoup de voir que ça... Il y a des choses qui sont tout à fait similaires entre les deux pays. Oui. Et surtout, ce qui nous lie beaucoup, c'est l'amour pour le cinéma. Et c'est la cinémathèque qui nous a sauvés pendant ce temps-là. La cinémathèque, enfin, les films en vidéo qui circulaient, mais aussi la cinémathèque était un lien extrêmement important en ce temps-là. Il y a des longues queues comme ça pour voir des films qui étaient plus ou moins interdits et tout ça. Donc, c'était la zone liberté pour nous dans une période très difficile, tout comme pour vous. Et ça m'a beaucoup impressionné que c'était la même chose des deux côtés. Oui.
Irina Margareta Nistor, vous êtes une des voix les plus connues en Roumanie. Entre 1986 et la chute du régime communiste, vous avez doublé plus de 5000 films hollywoodiens à une époque où l'on pouvait peut-être voir ces films que clandestinement. Comment vous avez fait? Comment vous vous êtes retrouvée justement à traduire, à doubler des films?
Oui, c'était à ce temps-là qu'il n'y avait plus que 2 heures de télé en Roumanie. Et ces 2 heures concernaient seulement Ceausescu, sa femme et tout ça, et la politique de ce temps-là, la politique communiste. Donc les gens, ils faisaient faire quelque chose de leur temps, vous voyez. Quand on est désœuvré comme ça, on aimait aussi. Il y a 2 choses. Il y a trop de temps et d'autre part, on ne pouvait pas du tout voyager. Donc c'était une façon de voyager à travers ces films-là et avoir un peu d'espoir, même autant quand il n'y avait plus d'espoir du tout. Et donc, il y avait un monsieur qui faisait venir ces films-là par l'intermédiaire des pilotes, parce que il n'y avait que les pilotes de ligne qui pouvaient voyager en ce temps-là. Et on faisait ce doublage, enfin c'est une voice-over, parce qu'on pouvait entendre quand même la voix des acteurs. Ils mettaient sur une bande vidéo 2 films, donc je traduisais en direct à première vue et tout ça pour 3 heures, 4 heures sans m'arrêter. Et évidemment sans voir le film avant, comme je disais, à première vue. Et il faisait ensuite circuler tous ces films-là, il faisait des copies et les envoyait un peu partout dans le pays, et non seulement dans le pays, même en dehors de Roumanie où il y avait des Roumains.
Donc vous êtes vraiment la voix du cinéma, hein, on peut dire, en Roumanie, mais c'est pas chose simple que de doubler films... interdit.
Et de plus, c'était pas si simple à faire ça au moment où on n'a pas encore voyagé pour connaître la langue vivante, parce que c'est une chose d'apprendre la langue comme ça à l'université et tout ça, et c'est tout à fait autre chose de vivre la langue. Donc c'est pour ça que c'était compliqué. Je pense que c'est important de savoir toutes ces choses-là pour que l'histoire ne se répète pas.
Exemple de difficultés que vous avez vécu, peut-être un événement qui vous a marqué du temps de la censure.
Le moment où on m'a fait savoir que c'est grave ce que je fais, tout ça, c'est au moment où j'ai traduit Jésus de Nazareth. Donc c'était un film religieux. La religion était interdite en Roumanie. Théoriquement, on était athées. Et quand celui de la Securitate, donc de la police secrète roumaine, m'a fait venir en disant « Mais qu'est-ce que t'as pris de traduire tout ça ?» J'ai eu un moment comme ça en disant « Mais vous savez, quand même, théoriquement, c'est dans nos lois, c'est inscrit que la religion est libre. » Et évidemment, ça l'a fait feu furieux en disant, mais vraiment, tu blagues, tu rigoles. C'était compliqué de le comprendre et tout ça. Mais c'était compliqué aussi pour ceux qui faisaient des films à ce temps-là, pour répondre à toutes ces règles là-bas.
Après la chute de la dictature, en Roumanie comme en Tunisie, il y a la transition démocratique.
Ça dure depuis longtemps. Il n'y a que le provisoire et la transition qui dure.
Qui dure, voilà. Ouais, c'est tout un processus, un long processus dans lequel se trouve aujourd'hui encore aussi la Tunisie. C'est une période cruciale, mais effervescente aussi. Et c'est une période où la culture s'exprime, où les artistes se prononcent.
Oui.
Quelle est l'importance et quel rôle peuvent jouer justement les cinéastes, les artistes en général, dans une période aussi cruciale et aussi importante de l'histoire?
Je pense que c'est le rôle principal. Ils peuvent jouer le rôle principal, et à partir de 2000, donc déjà presque depuis 20 ans, c'est le cinéma roumain qui est un des meilleurs représentants, ambassadeurs, comme on dit, comme un lieu commun, mais c'est vraiment, ce sont eux les ambassadeurs, et ça nous aide beaucoup, parce que comme ça, quand il y a tant de choses dont les gens se plaignent et tout ça, au moins on a ces films-là. Je pense que c'est notre passeport à ce moment-là. Et c'est tout comme jusqu'en 89, on n'a pas eu de passeport. Maintenant, on est heureux d'avoir un passeport tout simplement en papier, mais aussi un passeport cinéma. Et c'est aussi une continuation du fait que c'est le cinéma qui nous a sauvés dans les moments les plus durs, parce qu'on regardait des films et comme ça, au moins, on sentait qu'on vivait tous ces personnages là-bas. Et c'est pour cela qu'on était si attachés à des super-héros, mais qui n'étaient pas Superman, je ne sais pas quoi, mais il y avait des super-héros comme Chuck Norris et comme les super-héros qui nous faisaient rêver que peut-être un jour un super-héros comme ça viendra nous sauver.
Expérience croisée, un échange qui permet de comprendre l'autre et de mieux se comprendre, de relativiser et d'apprendre. Merci Madame Irina Margareta Nistor, merci Mayeda. Pierre-Louis Alessandri, fidèle à ses amis et à ses certitudes, tient à nous reparler d'une association culturelle qui a été d'ailleurs des nôtres lors des hommages à Pierre-Marie, l'association culturelle marocaine Racine. Depuis, Racine a connu des déboires que Pierre-Louis et son invité nous exposent.
Le 26 décembre 2018, un tribunal marocain prononçait la dissolution de l'association Racine, qui quelques semaines auparavant avait organisé les Assises de la Culture à Tiznit, au Maroc, et rendu aussi un hommage à Pedro Mar. Le jugement vient d'être confirmé en appel et le pourvoi en cassation ne suspend pas le jugement qui devient exécutoire. Le président de Racine, Adel Essa Adani, était présent à la fête de la Méditerranée au parc Galéa. Il a présenté son film sur les assises de la culture et annoncé aussi que si Racine était dissoute, son action continuait.
En fait, le jugement, pour être précis, c'est la dissolution de l'association et la liquidation de tous ses biens selon nos statuts. Donc on a fait une assemblée générale de dissolution le 27 avril et on est en train de liquider tous nos biens, les brochures, les bouquins, enfin tout, pas nos activités.
Alors justement, ouais. Les activités, notamment les assises de la culture que l'association organise à Tisnit, ouais. Ça va se passer comment ?
En fait, on est en train de réinventer une autre manière de restituer ces états généraux de la culture. On est obligé d'inventer d'autres formes de restitution, d'évaluation et de propositions de recommandations pour des politiques culturelles au Maroc, mais également en Méditerranée. Donc, on vient, par exemple, de finir un documentaire de 26 minutes qui restitue les derniers états généraux de la culture qu'on vient de faire à Tisnit, dans le sud du Maroc, en novembre 2018.
Et vous l'avez donc diffusé lors de la fête de la Méditerranée au parc Galéa en Corse. Ça a été un succès.
Oui, c'était la première fois où c'était diffusé, parce qu'on vient vraiment de le finir. La première, si j'ose dire, s'est passée pendant la fête de la Méditerranée au parc Galéa, le samedi et le dimanche. On l'a diffusé deux fois puisque il y avait beaucoup de monde et finalement on va voir d'autres manières de faire une restitution. On a un observatoire aussi, on a lancé un observatoire de droit des associations, de liberté d'association à travers le monde. D'ailleurs, on vient de le lancer à Paris le 8 avril. Il va être installé à Bruxelles. On s'est rendu compte, au fait, qu'il n'y a pas d'indice de liberté d'association de par le monde. Il y a bien des indices de liberté de presse, de liberté d'expression, de développement, etc. Mais un indice qui montre le niveau de liberté et de droit et d'atteinte aux droits d'association de par le monde en tant que critère de démocratie, ça n'existe pas.
Alors ça va être un de vos combats désormais.
Ah oui, de toute façon, on s'est rendu compte encore une fois que le contenant association, société civile, bien qu'il soit courtisé par toutes les assemblées intergouvernementales, ONU, UNESCO, et j'en passe, n'est pas assez... Dans des pays pas très démocratiques, il faut bien le dire, on ne favorise pas la liberté des contre-pouvoirs que constitue la société civile.
Alors, par rapport à votre activité au Maroc, donc, qu'est-ce que vous allez faire ?
Au Maroc, on va continuer notre activité, pas en tant que racine, parce que on a été dissous, et si on enclenche d'autres...
Donc ce sera une autre renaissance, je
absolument.
Dirais.
Absolument. Si on fait d'autres activités au Maroc, c'est du domaine du pénal, puisqu'on a été jugé. Mais on a toujours travaillé de manière horizontale avec plusieurs associations dans les différentes régions marocaines. L'idée, c'est pas Racine qui vient apporter la bonne parole, mais travailler avec les associations en région. Et donc, on va continuer à suivre ces associations et travailler avec elles pour implémenter la culture en tant qu'outil pour le développement. On en a besoin dans toutes les régions au Maroc, mais on a aussi un observatoire de politique culturelle qui travaille dans la région méditerranéenne avec d'autres pays tels que l'Égypte, le Liban, la Tunisie et le Maroc pour commencer. Et l'idée, c'est de se contaminer positivement. Il y a bien des choses qui se passent très très bien, qui ont réussi par exemple en Corse, qu'on serait bien avisé d'implémenter au Maroc et inversement. Après tout, bien qu'on soit divers en région méditerranée, il y a beaucoup de choses qui nous rassemblent et on serait bien inspiré de prendre les bonnes pratiques des uns et des autres.
Donc si Racine a été dissous, l'esprit de Racine n'est pas mort.
En fait, c'est déjà une gageure. On est, c'est déjà une gageure de vouloir enterrer des racines, comme disait le proverbe mexicain. Ils croyaient nous enterrer, mais ils savaient pas que nous étions des graines.
Lo niego todo, aquellos polvos y estos lodos. Lo niego todo, incluso la verdad. La leyenda del suicida. Y la del bala perdida, la del santo Beodo. Si me cuentas mi vida, lo niego todo. Tiburón de Hacienda,
confiscador de bienes. Me ha cerrado la tienda, me ha robado el mes de abril. Si es para hacerme daño, sé lo que me conviene.
Nous arrivons à la fin de ce 36e cantara de la saison, un cantara au cours duquel nous avons repris certaines chansons que nous vous avions proposées pendant ces derniers mois, comme Gaël Faé, Pili Pili, ou encore la chanson du barde de Madrid, Joaquín Sabina, Lo Niego Todo. Nous vous proposons de finir avec une chanson palestinienne, car nous allons être rejoints par la radio publique palestinienne pour la saison prochaine, la saison 2019-2020. Et parce qu'il s'agit d'une chanson d'écoliers partant en vacances. Et c'est ainsi, amis auditeurs, que nous le vivons. À la réalisation se trouvait Pedro Berastegui. Un grand merci aux techniciens de toutes les radios partenaires. Je vous invite à visiter notre page web Cantara sur laquelle veille notre collègue Mayed. À très bientôt.